une en Israël. Lise, vous allez nous parler avec Raphaël Jérusalmi, ancien officier des renseignements militaires, de Jenin et des tensions à la frontière nord.
Mais oui. Bonjour Raphaël, merci d'être avec nous ce matin sur Radio Judaïka.
Bonjour.
Alors donc, Jenin, opération d'envergure ce matin. Le porte-parole en chef de l'armée israélienne, Daniel Hagari, a déclaré que l'opération se concentrait vers Jenin, mais pourrait aussi s'étendre à d'autres parties du nord de la Samarie. Ça fait plusieurs semaines qu'on en parle, notamment avec vous, Raphaël. Est-ce que ça va durer au minimum plusieurs jours, voire plusieurs semaines ?
Normalement, l'opération est ponctuelle et devrait durer 48 heures, un peu plus, un peu moins. Il y a des objectifs très précis que Tsahal s'est fixés, des objectifs qui ont été fixés il y a déjà un an. Cette opération est dans les tiroirs depuis un an. L'autorisation définitive a été accordée il y a 10 jours par le gouvernement au ministre de la Défense, vu la montée des actes terroristes. Et donc, normalement, ça veut dire qu'il n'y a pas d'imprévu, de dérapage. Par exemple, si Gaza reste tranquille, si d'autres factions, d'autres villes, des territoires restent tranquilles, l'opération sera ponctuelle sur le camp de réfugiés de Jenin et la partie ouest de la ville de Jenin, avec un démantèlement des infrastructures. On remarque qu'il y a peu de terroristes tués pour l'instant. Donc la cible principale, l'effet de surprise étant maintenant terminé d'après la première frappe, c'est véritablement le but, c'est de démanteler les infrastructures, de détruire les bureaux, le quartier général, les endroits où on entrepose les armes, les véhicules, démanteler tout ce qui est communication informatique et d'avoir un effet de dissuasion et un message fort vers les Iraniens qui financent le terrorisme à Jenin. Et de ressortir. Et la chose principale qui préoccupe Tsahal, c'est d'éviter à tout prix qu'un soldat israélien soit blessé, tué ou pire, kidnappé.
Oui, bien sûr. Alors, le Shin Bet disait qu'un grand nombre de laboratoires de production d'explosifs ont été localisés et détruits. C'est ça, donc, Tsahal ne va pas de maison en maison pour chercher des terroristes. Là, c'est vraiment de détruire, comme vous le disiez, Raphaël, toute l'infrastructure et d'essayer, en fait, de les empêcher pendant les prochains mois de faire des attentats.
Voilà, c'est une solution effectivement temporaire. On espère que ça sera pour plusieurs mois. Malgré tout, et donc il y a tout simplement une liste à suivre, un itinéraire. Les habitants de Jenin qui ne sont pas concernés ont reçu un avertissement comme quoi ils devaient rester aujourd'hui à la maison, ne pas bouger, laisser Tsahal faire son travail pour éviter bien sûr des incidents indésirables. Et donc normalement, comme je l'ai dit, il y a les trois quarts des terroristes sont cachés quelque part, terrés. Ils ne vont pas montrer beaucoup le bout du nez, ce qui va laisser donc à Tsahal le temps de travailler, de nettoyer ce bastion de la terreur qui est véritablement un supermarché pratiquement de la terreur avec des entrepôts d'explosifs, d'armes illégales, beaucoup de matériel. C'est donc rien à voir avec une antifada des couteaux ou des jeunes radicalisés. C'est bien des cellules très très organisées, très bien financées, et comme je l'ai dit souvent par l'Iran, pour l'instant, l'autorité palestinienne et la Jordanie ont été prévenues de cette opération. Ils semblent ne pas trop, dirons-nous, être intempestifs dans leurs déclarations. Ils comprennent bien la nécessité, ici sécuritaire, de ce qui est en train de se passer.
Et en même temps, Raphaël, Tsahal a pris soin pour l'instant de ne pas attaquer des forces de sécurité de l'autorité palestinienne également.
Oui, on leur a demandé d'évacuer et ils ont évacué. Donc hier, tôt dans la nuit, les services de sécurité de l'autorité palestinienne ont évacué Jenin, laissant le champ libre à Tsahal. Ça a été concerté, coordonné avec Ramallah, alors qu'il bien sûr va quand même être obligé de dire à un moment donné à un autre qu'il condamne l'opération de Tsahal, mais qui en fait laisse faire, car en fait, plus Jenin se renforce et plus Ramallah s'affaiblit. Et donc, ça arrange bien les affaires de M. Abou Mazen, en fin de compte.
Bien sûr. Alors, sur le deuxième front auquel Israël doit faire face au nord, Raphaël, on a été un petit peu surpris hier parce que les forces de défense israéliennes ont décidé de laisser passer un missile syrien qui a quand même voyagé à plus de 180 km de la frontière la plus proche et qui a explosé ensuite, effectivement, sans faire de dégâts. Et les Israéliens ont dit qu'il n'y avait pas d'erreur, en fait, qu'il n'était pas nécessaire de l'abattre plus tôt. C'est pas dangereux quand même de laisser le missile comme ça rentrer sur le territoire israélien sur autant de kilomètres, Raphaël?
Oui, dangereux. La preuve en est que, en fin de compte, le missile qui devait atterrir en plein champ a en fait touché un bâtiment dans lequel il y aurait pu y avoir des personnes. Et donc, c'était quand même risqué. C'était, à mon avis, quand même une erreur sur le plan de la procédure, c'est-à-dire. Déjà, ce missile représentant une menace aurait dû être neutralisé avant même d'atteindre le territoire israélien, une fois qu'il était tiré. Ensuite, on a plus ou moins calculé que, car normalement, ce missile, s'il rate sa cible, s'autodétruit. Or, le missile ne s'est pas autodétruit. Il peut être aussi détruit à distance par ceux qui l'ont envoyé, les Syriens, mais ils ne l'ont pas fait. C'est déjà arrivé à plusieurs reprises. Les Syriens sont très mauvais dans le tir, mais aussi très mauvais dans le contrôle de leur armement. Il y a eu un de ces missiles qui a atterri il n'y a pas longtemps à Chypre. Donc vous voyez jusqu'où ça peut aller. Donc c'est très dangereux. Alors ça, elle est en train de mener une enquête, prétend avoir monitoré, donc suivi ce missile tout le temps qu'il volait au-dessus du territoire israélien. Il y avait à tout moment la possibilité, effectivement, de le détruire. Ça n'a pas été fait. À mon avis, il y a eu peut-être même une petite bavure là, mais je ne suis pas dans les secrets de la défense antiaérienne israélienne. Il se peut qu'il y ait eu une raison pour laquelle on a décidé de ne pas détruire ce missile en plein vol au-dessus d'Israël. Je me demande laquelle ça pourrait être.
Oui. Alors, toujours du côté de la frontière nord, on avait depuis deux semaines cette pression avec les tentes du Hezbollah qui étaient sur le territoire israélien. Ils en ont enlevé une. On va continuer le bras de fer avec, ou plutôt la diplomatie avec la Finule.
Plutôt la diplomatie, car ces tentes ne représentent pas un danger sécuritaire. Il y a en fait 22 postes de ce type. Celui-là est un peu plus avancé que les autres, mais il y a 22 postes illégaux du Hezbollah le long de la ligne bleue entre Israël et le Liban. La Finule, oublions, elle est absolument inutile. Elle existe depuis 40 ans, elle n'a rien fait, elle ne fera rien. Par contre, sur le plan diplomatique, les pressions ont marché. La France, d'ailleurs, a joué un rôle important de par ses bonnes relations avec le Liban. Elle a fait pression sur le gouvernement libanais, qui lui-même a fait pression sur le Hezbollah. Et donc, une des tentes a été retirée par le Hezbollah. Il y a une date limite après laquelle Israël se réserve le droit de détruire ses tentes de façon militaire et musclée, mais on préfère éviter puisque, comme je l'ai dit, ces tentes sont une provocation, mais en fait ne représentent pas un danger sécuritaire.
Justement, l'ancien chef des services de renseignement de l'armée disait que la menace à long terme de maintenir le Hezbollah en territoire israélien lui paraissait plus risquée que le risque d'un conflit plus important avec le Hezbollah. Raphaël, vous n'êtes pas d'accord ?
Il y a une école de pensée qui dit effectivement que ne pas agir maintenant, ne pas tuer dans l'œuf cette provocation, ça risque de psychologiquement de renforcer la motivation du Hezbollah, de les faire croire qu'ils sont plus forts, qu'ils cèdent. Je ne suis pas du tout d'accord avec cette façon de voir. Le Hezbollah sait très bien qu'Israël a décidé de ne pas intervenir pour l'instant parce que ça n'arrange pas nos affaires et que le jour, à la minute même, où on décide d'éliminer les personnes qui nous provoquent sur la ligne bleue, elles seront éliminées sans problème. Donc je pense que le Hezbollah ne se fait aucune illusion sur la force de Tsahal. C'est justement une démonstration de force que de montrer de la retenue.
Ma dernière question justement là-dessus, Raphaël, entre la tentative d'attaque par drone du Hezbollah à Karish, Megiddo et les roquettes, est-ce qu'on n'a pas l'impression que le Hezbollah sous-estime un peu la force militaire d'Israël dernièrement ?
Non, ils savent très bien ce qu'ils risquent lorsqu'ils mènent ces actions. Ils savent très bien que pour l'instant, d'ailleurs eux non plus, hein, Metzal non plus, ne sont intéressés à une escalade et à une, un conflit de grande ampleur. Et donc c'est un petit peu chacun, dirons-nous, chatouille l'autre. Voilà, il n'y a rien ici de véritablement dangereux. Si c'était le cas, nous serions déjà en pleine guerre. Et donc, la seule chose qui est inquiétante, c'est effectivement que le Hezbollah fait ce qu'il veut au Liban, que l'armée libanaise et le gouvernement libanais ne peuvent rien faire contre eux pour les contrôler, et qu'il y a un problème interne, intérieur libanais, qui pousse le Hezbollah à tenter de marquer des points vers l'extérieur, vu sa perte de popularité au sein du Liban même. Donc ça, c'est un peu dangereux, avec les Iraniens qui poussent derrière. Mais pour l'instant, on est quand même à des échanges sporadiques de menaces ou même de tirs, mais qui n'ont pas de conséquences stratégiques importantes.
Merci beaucoup, Raphaël Jérusalemi, pour cette analyse. Je rappelle que vous êtes ancien officier des renseignements militaires. À très vite.